Salut vous autres, comment ça va? Dites-nous d'où est-ce que vous êtes ce soir, dites-nous ça. Hey, invité de Marc ce soir, vous l'avez très apprécié lors de son premier passage, lors de son dernier passage dans nos lives. On parlait de dindons sauvages ce soir. Ça a l'air de rien si on regarde dehors, là, mais si on regarde vendredi passé, mettons, là, je ne m'imaginerais pas bien à la chasse aux dindons, là, malgré qu'on en voit, je ne sais pas chez vous, mais ici, là, à le matin, là, par bout, il faut attendre dans la rue, là, ça passe, ça, là. Ça attend pas le petit bonhomme sur le coin de la rue, là. Ça passe, ça, ouais. Moi, je m'en vais dans le champ, l'autre bord, il y a du Magis qui dépasse la neige. Il y en a beaucoup, donc on en reparle ce soir, vous l'aurez deviné et vous l'avez vu dans les invitations. Cette semaine, pour le live, c'est Steve Tardy qui est avec nous, donc le grand, l'unique, le magnifique Steve Tardy qui va nous parler de chasse aux dindons sauvages. D'ailleurs, qui va annoncer une formation. Prenez des notes, on va annoncer une formation tantôt très. Ah ouais, Saint-Anicet, tabarouette, qui? Je l'ai pas vu passer. T'as un peu qui ça, Saint-Anicet? Hey, Saint-Anicet, il y a du dindon en tabarouette là-bas. Bonsoir, Serge Plante. Hey, on se connaît pas. Juste l'autre bord des boîtes à mal, là où les petits HLM passaient les autobus de, voyons, Cibole, des Kenville. On est dans un chalet là, nous autres, la famille est drette là. Il y a du dindon en tabarouette à Saint-Anicet. On est là toutes les années avec les enfants. Mes parents, d'ailleurs, se sont mariés à Saint-Anicet, donc toute la gang est dans le coin de Valleyfield, dans ce coin-là. Écoutez, ce soir, je veux dans un premier temps que vous partagiez le live, parce qu'évidemment, comme à tous les lives, il y a un abonnement de 2 ans à gagner au magazine Aventure Chasse-Pêche, avec les primes qui viennent avec le magazine, évidemment, avec l'abonnement de 2 ans. Et pour gagner, ben, 2 grandes choses. Partagez le live que vous écoutez et taguez-moi votre monde, taguez ça. C'est simple, taguer, là, ce que ça veut dire, là, dans les commentaires de ce bord-là, je pense, en tout cas, là, en, ou en bas, ou dépendamment où est-ce que tu l'écoutes. Bref, dans ce bout-là, à peu près, là, tu fais un A commercial, le nom de ton ami, Enter. Mais en pas plein, faisant un par commentaire. Chaque fois que tu tagues quelqu'un, tu as une chance de gagner. Je passe sur mon intro très rapidement. L'infolettre, abonnez-vous à l'infolettre. L'infolettre est en train d'exploser. Présentement, c'est même hallucinant de vous voir arriver sur le site et vous connecter sur le site. Première des choses pour aller chercher l'infolettre, pour aller vous inscrire dans les différents concours. On va en reparler tout à l'heure aussi. Évidemment, Meub SGL, le concours qui est toujours en branle. Vous êtes beaucoup à vous connecter sur le site en même temps pour aller chercher ces informations-là. Et on vous encourage à vous inscrire à l'infolettre parce que c'est toute l'information que vous voulez livrer dans votre boîte. Ça vous tente pas de vous faire tanner dans la boîte? Il y a un petit piton rouge qui existe dans le bas de là. Je me trompe tout le temps. Non, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le One Signal. Vous cliquez là-dessus, vous faites confirmer. Ça va vous aviser juste au-dessus de l'heure sur votre ordinateur ou encore dans le haut de votre écran sur votre téléphone cellulaire quand on entre en onde, qu'il y a quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit. Fait que si vous voulez pas là, recevoir les courriels, là, One Signal, c'est la bonne chose. En passant, dans l'infolettre, il y a le concours qu'on vous parle depuis le début du mois qui va se répéter à tous les mois, qui est un nouveau partenaire, qui est Meuble Signature SGL. Meuble Signature SGL, c'est le spécialiste dans le meuble sur mesure fait au Québec, puis le spécialiste dans l'œuvre murale, comme celle que vous voyez présentement à l'écran, qui est celle qui est à gagner ce mois-ci. Ça vaut 800-900$ la patente, là. La seule chose que vous avez à faire, vous allez voir sur l'infolettre, il y a le lien, là, c'est d'aller aimer la page Facebook de Meuble Signature SGL. Vous êtes inscrit. Ça s'arrête là, tu es inscrit. That's it. Le mois prochain, il y a une autre œuvre murale comme ça, puis ils vont en avoir à tous les mois. Tous les mois, Meuble Signature SGL nous donne une décoration murale de même. Et pour ceux qui sont venus dans le studio de live ici et qui ont vu les libellules, là, c'est pas une petite tôle feluette, hein. C'est un gros morceau de métal. Là. C'est lourd, ça, par exemple. Honnêtement, là, c'est assez hallucinant. Créateurs de contenu, on a fait quelques lives là-dessus. Vous êtes beaucoup à répondre. Et rapidement, les créateurs de contenu, vous le voyez à l'écran présentement, ont commencé à s'ajouter. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es quelqu'un qui fait des lives, qui fait du contenu vidéo, comme par exemple Steve qu'on va recevoir ce soir, Mooseman que vous voyez à l'écran, ça c'est Steve, l'autre c'était Mooseman. Vous voulez vous faire connaître, on vous diffuse gratuitement sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. Et ce qu'il y a de plus beau, alors j'ai bu mon café trop vite moi, ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est que les views, quand on plug votre YouTube par exemple, là, quelqu'un clique sur votre vidéo sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, c'est vous qui avez la vue sur votre YouTube, donc on ne touche pas à votre reach. On ne capture rien, pas d'exclusivité, pas de quoi que ce soit. On veut juste créer une communauté de créateurs de contenu. Et ça, présentement, ça explose pas à peu près. Pour vous, les utilisateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de contenu sur plus de sujets, tout en même place. Je connais pas tout, moi. Fait qu'il y a des gars comme Steve qui viennent porter du contenu là-dessus. D'ailleurs, Steve, eh bien, on en parlait tantôt, c'est son podcast Turkeynator. Il y en a tantôt qui me parlaient que dans le char, ils écoutaient ça avec le corps à la bouche puis qu'ils se pratiquaient en écoutant Steve. Ben, c'est une excellente façon de vous avancer dans vos techniques de dindon sauvage. Mooseman qui a honnêtement des fichus de bons vidéos. C'est en anglais. Il y a plusieurs vidéos sur le site qui se sont ajoutées en anglais. Le Canada anglais écoute aussi beaucoup. On tente de les traduire le plus possible. Mais faire le sous-titrage, tout traduire, puis vous mettre ça dans le bas de l'écran. Si vous êtes volontaire, on va vous montrer comment faire. C'est du stock en tabarouette. Vidéo CQ Meeting qu'on a diffusé ce matin. Après le CQ Meeting, vous avez été beaucoup à réagir, entre autres dans la discussion que j'ai eue avec Mme Michaud dans le CQ Meeting. Eh bien, ce matin, on vous a mis en ligne une vidéo qui est un peu l'analyse de cette conversation-là de manière très constructive, très posée et avec une belle proposition d'offre de service au niveau de la connaissance de base sur les armes à feu. Allez écouter ça. Compétition tir au pigeon d'argile, très intéressant. Et ça, c'est cet été que ça se passe. Je pense qu'à la régie, on a le... Ouais, exactement, club de tir, le pionnier compétition tir au pigeon d'argile. Si je me trompe pas, là, c'est 1100 $ en prix là-bas, là, quand même très intéressant. Admission 100$, il y a 100 places disponibles en collaboration avec le CCFR, puis il y a une partie des profits qui s'en vont au CCFR dans la défense des droits des propriétaires légitimes d'armes à feu, entre autres face à AC-21. Donc, Club de tir, le pionnier, fait qu'allez sur Facebook, là, aimez leur page pour avoir les nouvelles. Là. Sur le rang de la presqu'île à l'Assomption, il y en a plusieurs qui les connaissent. Donc, samedi le 10 juin 2023, 7h30, vous êtes là, compétition, on se fait du fun, ça s'en va pour la bonne cause. C'est génial. Michel Therrien, formation de Michel Therrien, vous le savez, ils sont diffusés, elles sont là, elles sont disponibles. Dépêchez-vous, il reste quelques places. Vous nous courez après pour savoir quand est-ce que Michel est en formation. Allez sur michelterrien.com et faites sûr de communiquer avec eux. Question d'avoir votre place dans sa formation. Et j'ai terminé mon introduction, ce qui veut dire qu'on passe à l'étape magique de la soirée. On fait monter le grand, l'unique, le seul. Steve Tardy, comment ça va, toi?
Ça va bien, vous autres?
Ben, super bien. Honnêtement, je trouve ça hallucinant de voir autant de dindons que ça avec la neige que là. Ça les dérange pas, Steve, ça, là.
Ben, écoute, tant qu'on n'a pas une longue période de froid intense, là, tu sais, là, oui. Une grosse semaine, des fois, ça peut aller, des fois, jusqu'à 10 jours avec du moins 20 et moins, ça va aller. Tant que la couverture de neige, même si c'est épaisse, parce qu'il y a beaucoup de régions au Québec présentement qui ont quand même passablement de neige, mais tant que le verglas ne se mêle pas de la partie et que les empêche de gratter au sol puis de se rendre jusque à leur source de nourriture, parce que principalement, on va voir des dindons en période hivernale, on va les voir sur le bord des chemins, sur le bord des routes, oui. Où ce que il va y avoir une partie qui va avoir été grattée par la charrue puis qui va être exposée au soleil, donc ça va fondre, il va y avoir de l'herbe qui va être accessible, donc il va y avoir de la nourriture, où ils vont souvent monter dans les arbres, ils vont aller picorer les bourgeons qu'ils vont avoir, où on a vu, justement, tu parlais de Michel tantôt, Michel il a partagé un beau vidéo il y a quelques semaines, puis on avait des dindons qui étaient dans un sumac vinaigrier, ils adorent le sumac, ils passent des journées là-dedans, quand vous voyez une talle de sumac dans une région où il y a du dindon, c'est pas rare, vous allez voir du dindon perché.
Ils vont après le fruit du sumac vinaigrier.
Exactement.
Donc, même quand il est gelé, ils vont picorer là-dedans, évidemment.
Ils vont picorer là-dedans, tout le kit. Mais on s'entend que le dindon vit principalement sur ses réserves de graisse. Notamment, on dit, à partir de les dernières semaines, à aller jusqu'à la fin mars. On a été chanceux cette année parce que dans plusieurs régions, l'hiver a commencé quand même assez tardivement. Donc, on a commencé à avoir des premières neiges, puis premiers grands froids, tu sais, en bas de moins 10, moins 15. Juste après les fêtes. Donc, oui. Ça a quand même un bon mois supplémentaire au dindon pour s'alimenter. Puis même quand je fais un tour des régions, là, je fais aller mes contacts, tout le kit, ou sur ma page, ben non, dans le groupe.
Tout ton réseau d'informateurs, là.
Ouais, exact. J'ai mon réseau de contacts, un peu comme la CIA, là. Je suis au courant d'un peu tout ce qui se passe dans chaque région. Puis en Estrie, où principalement, ça arrive sud du fleuve, mettons, je te dirais, tout ce qui est au sud, à peu près de Victoriaville, le couvert d'enneigement est mineur à un point tel qu'aller jusqu'à la dernière tempête de deux semaines, il y avait pratiquement pas de neige au sol. Donc, ça va donner quand même un bon taux de survie pour les dindons. Puis, le printemps passé ainsi que le mois de juin ont été des mois quand même assez propices à la nidification. Donc, ce qui a permis aux dindes de mettre à terme leur premier nid. Parce que c'est bien important pour oui. Les dindes de mettre à terme leur premier nid. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si, mettons, le premier nid, la première ponte ou série d'œufs qui est pondue par les dindes, fin mai, début juin, est détruite par un prédateur. Notamment, on en parlait tantôt, les ratons oui. Laveurs qui sont épouvantables pour les dindons. C'est probablement le pire prédateur parce que c'est un prédateur de nid et va manger tous les œufs. Donc, les dindes vont garder le sperme du mâle qui ont été accouplis, peuvent le garder jusqu'à 7 semaines à l'intérieur d'elles.
Et si bon, quand même.
Oui, ce qui va permettre aux dindes de refaire un deuxième nid. Mais la problématique qui est en train d'arriver, puis c'est que c'est des biologistes de l'État de la Géorgie qui ont trouvé ça, c'est lorsque le deuxième nid vient à terme, les dindonneaux et les poussins sont trop jeunes pour être en mesure de bien réguler leur chaleur. Donc, on arrive vers la fin juillet, des fois la mi-juillet, les œufs vont éclore. Donc, les dindonneaux vont être trop jeunes. Ils ne seront pas en mesure de bien contrôler leur chaleur et de bien réguler leur température corporelle. Donc, ils vont carrément cuire et mourir. Donc,
ils ont bon. Okay.
Le taux de survie d'un deuxième nid est généralement entre 1 à 2 dindonneaux par dinde.
C'est bon à savoir, je ne savais pas ça du tout, du tout. D'ailleurs, petit break de 2 secondes, là. Deux façons, parce que là, Steve va nous envoyer beaucoup de données ce soir, là, beaucoup de savoir en très peu de temps, il est capable en tabarouette. Mais si vous voulez avoir accès à ce savoir-là, je vous donne deux façons. Première des choses, Steve a un podcast qui s'appelle Turkeynator. Vous pouvez le trouver facilement sur Spotify, mais dans l'espace, si vous allez sur Aventure Chasse-Pêche, série Turkeynator, vous tombez directement dessus, puis vous encouragez l'auteur parce que, évidemment, les views vont sur ses moyens de diffusion. Il est-tu ailleurs que sur Spotify?
Oui, sur Apple. Et d'ailleurs, la saison 2 commence la semaine prochaine.
Semaine prochaine. On va essayer en régie, essayer de prendre une note là, la semaine prochaine, mais que la nouvelle saison apparaisse. On va faire un boom sur Facebook. Là, on va faire comme, venez écouter la deuxième saison du Turkeynator.
Il va y avoir des nouveautés cette année. Donc, je vais recevoir quelques invités. J'ai déjà une liste d'invités. Il va y avoir des invités. Des artisans du dindon au Québec, des pionniers de la chasse au dindon au Québec, biologistes de la chasse. Et il va y avoir des grandes pointures que les gens voient aux États-Unis, toute la kit. Là.
J'ai tenté de compétition de dindon normalisé ou standardisé au Québec. Une compétition de troll au dindon. C'est fou, ça. Aux États-Unis, là, après ça, je vais donner la deuxième façon là, de se faire former par cible. Aux États-Unis, là, moi, j'ai vu ça. Là, c'est pas 100 personnes. Là. Ça peut être des milliers de personnes.
La semaine dernière, à Nashville, c'était la convention, c'est-à-dire du 50e anniversaire de la National Wild Turkey Federation. Pour l'occasion, Mossyoak, qu'on connaît, cette compagnie de camouflage, a créé une nouvelle veste à dindon.
Okay.
Une veste édition spéciale qui va être en quantité limitée de 1944 exemplaires, qui est la date de naissance du père de Fox Ass, le père de Toxie Ass, le créateur et fondateur de Mossyoak. La veste numéro 5, parce que les 4 premières sont réservées à la famille Ass, la veste numéro 5 s'est vendue à l'encan aux enchères à la convention. 31 000 $ US, une veste à dindon. Ceux qui ont réussi à mettre la main sur une veste, présentement, il y en a plusieurs sur eBay, se vendent entre 5 à 7 000 US, parce que des vestes, plus que tu montes dans le chiffre, moins que la veste.
Bon, oh oui.
Là. Il y avait, juste pour assister aux conférences et au Grand National Calling Championship, là, qui est la compétition reine du meilleur caller de dindon, il y a eu 62 000 spectateurs.
C'est fou. On ne comprend pas à quel point aux États-Unis, c'est une culture, le dindon sauvage. Alors,
c'est une religion, c'est mythique.
Ah, littéralement. Steve, avant de continuer, tu as une formation que tu as mise en place.
Oui.
En régie, je pense qu'on a la pancarte de ça, d'ailleurs. Exactement. Probablement ta plus belle photo. Tu n'as pas d'autres. Mais c'est une photo que j'adore, celle-là. Tu l'as utilisée. On l'a utilisée dans le passé pour un live aussi.
Oui.
Et je l'adore. Parle-moi de la formation. Là, d'abord, c'est samedi, le 18 mars. 75$, c'est pas cher en tabarouette, honnêtement. Là. Qu'est-ce que tu offres dans cette formation-là?
Ça va être probablement la formation la plus complète qui a jamais été faite sur le dindon. C'est une formation où on va partir du point A, c'est-à-dire la prospection, comprendre comment trouver nos dindons, un coup qu'ils sont trouvés, comment bien prospecter pour comprendre notre territoire, comprendre nos habitudes de vie, puis il va y avoir beaucoup de notions de biologie pour pas juste interagir avec le dindon en situation de chasse, mais bien comprendre comment notre dindon réagit et comment s'adapter vis-à-vis de lui et en situation de chasse. Il va avoir aussi un grand volet au niveau des cartes. Tu sais, les gens me demandent toujours comment, les séquences, je fais tout ça à toutes les cinq minutes. Non, je vais pas juste vous dire comment on va démystifier toutes les notions de cartes. Je vais vous donner des exemples aussi. Je vais faire des séquences d'appels. Je vais vous donner des séquences d'appels à faire, des séquences d'appels à pas faire aussi. Donc, on va tout voir ça, tout le langage du dindon. Puis en même temps, on va couvrir toutes les situations problématiques. T'sais, ah, le dindon est avec des femelles, il ne veut pas venir nous voir. Le dindon, oui. Il nous répond tout. Je vais tout vous expliquer en même temps comment comprendre votre dindon. Quand il gobble puis qu'il reste à telle place, ou ben non, qu'il tourne en rond, qu'il ne veut pas venir, qu'est-ce que ça l'implique? Pourquoi il fait ça et comment interpréter ça? Je vais expliquer en même temps les différentes techniques de chasse à deux, techniques de chasse en run and gun, comme on appelle, tu sais, oui. Puisqu'on se déplace, puis on fait nos appels, localisation en cours de journée, technique de chasse par temps pluvieux, temps venteux, temps chaud, le matin en début de journée, mi-journée, vers la fin de journée au Québec, on s'entend, on parle de 10 heures à midi, comment, je vais vous donner aussi en même temps des heads-up, comment aller chasser en Ontario, comment aller chasser aux États-Unis. Je vais enseigner aux gens aussi en même temps comment bien éviscérer son dindon, comment bien l'apprêter. Fait qu'on va tout voir de A à Z. En même temps, il va y avoir un volet biologique, comme je disais, et historique sur le dindon. Comprendre d'où vient cet animal-là et pourquoi cet animal-là est si mythique que ça. T'sais. En même temps, le dindon sauvage, puis les gens ne savent pas ça, tu sais. C'est la plus vieille chasse qui est pratiquement été répertoriée dans l'histoire de l'humanité. Ah oui. Un casse de dindon a été trouvé dans le désert en Arizona. Et ce casse, c'est pas lui. Là. Le casse, ils l'ont date de 4000 ans. C'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça vous donne une idée? C'est un wing bone, c'est un os d'aile. Puis là-dessus, on fait un peu comme une trompette. On aspire.
Jamais donc, si tu veux rire une bonne traite, là, donne-moi ça, puis regarde-moi essayer de caler, tu vas te tordre.
Mais ça, justement, la formation, je vais en parler beaucoup aussi, puis je vais parler de tous les différents appôts, je vais toutes les avoir, je vais toutes les amener.
Et là, juste et de même, là, il est trop tard, tu l'as écrit sur le papier, là. Pas mal moins cher qu'une veste de chasse aux dindons sauvages. Hein? Hey. Bon, gang, c'est où est-ce qu'a lieu la formation?
C'est au Quai des Brasseurs, à Bécancour, c'est environ à 5-10 minutes du pont La Violette. On a décidé de faire ça dans le centre du Québec parce que c'est quand même une région, on parle de la zone 7, oui. Qui a beaucoup de dindons, il y a beaucoup de chasseurs de dindons. On fait ça en après-midi, donc vous n'êtes pas obligé, si vous partez de loin, de vous lever à 4h du matin, la formation va avoir lieu en plein milieu de l'après-midi, de 1h à 5h. Après ça, si vous voulez rester, moi je vais rester, je vais prendre une bière avec vous, je vais être disponible. Bien, passer la formation, je vais répondre aux questions des gens, puis je vais essayer le plus possible, évidemment, de personnaliser la formation. Ceux qui veulent apporter leurs appos, je leur dis, apportez vos appos, je vais vous corriger live, puis je vais vous montrer live comment caler.
On 75$, gang. Pensez-y.
C'est une bonne base.
75$, là, c'est...
T'as un deal.
Si je calcule rapide, présentement, c'est à peu près un tiers de sac d'épicerie. Hey, c'est fou, raide. On devrait faire ça. Après la formation, on fait une compétition de call au dindon sauvage au IGA à côté. Steve, je veux t'amener sur le data un peu parce qu'on veut en même temps faire saliver les gens pour la chasse qui s'en vient. Parce que là, on se dit, bon, il nous parle de chasse au dindon sauvage. Souvent, en neige, genre, moi, je suis dans belle chasse, je vais te le dire présentement. On pèle pour voir le premier tiers des châssis. Là. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup plus que vous pensez à faire présentement pour préparer votre chasse au dindon sauvage. Puis là, on ne parle pas de faire votre sac à dos. Là, on parle de géolocalisation puis d'observation, n'est-ce pas?
Oui. Puis là, présentement, tu sais, souvent les gens me disaient, là, il y a plusieurs années, là, puis là, une fois, je faisais des pauses, puis déjà là, dans ce temps-ci de l'année, là, puis là, je mettais des photos de dindon, puis là, je partais avec mon gros appareil Reflex, mon gros Canon, puis mon spotting scope, puis tout. Mais pourquoi tu fais ça, tout? Bien, parce que je fais un inventaire. Ce qu'il faut comprendre, les dindons d'hiver vont se regrouper par groupe d'âge, des fois par famille et par sexe. Donc, on va avoir un groupe de femelles, on va avoir un groupe de juvéniles qu'on appelle les jecks, et on va avoir un groupe de tomes. Si vous avez, mettons, sur une terre donnée, un groupe d'une quinzaine de tomes que vous observez régulièrement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'une fois le printemps arrivé, une fois la saison du cadre ou de l'accouplement entamé, que ces 15 tomes-là vont rester sur votre terre. Voilà. Non, ils vont se disperser. Sauf que, prenant en considération les terres avoisinantes, donc, ça ne veut pas dire que les dindons, ils font pas une migration de plusieurs kilomètres. Les dindons vont se séparer. Donc, il va vous rester 4-5 tomes sur votre terre. Le voisin est 4-5, puis un 4-5 ou un 3-4 ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est important. On fait le tour, on fait un inventaire, on voit un peu ce qui reste comme population. Là, je vous dirais, c'est sûr, à moins qu'on ait un mois de mars vraiment rigoureux, mais ce que vous voyez, ça va être à 90-95% le cheptel qui va survivre à aller à la fin de l'hiver. Donc, on fait le tour, on regarde, on fait un inventaire dans son coin et en même temps, ça nous donne une bonne idée qu'est-ce qu'il y a, puis c'est le temps aussi d'aller cogner à des portes.
Il y a une question qui se pointe. Y a-tu des dindons vers Rimouski ou plus bas? Moi, oui. J'étais surpris. La dernière fois qu'on est monté à Pourvoirie du lac à l'Ours Blanc, là, ça, c'est pas loin de Parent, là. Ben, dans route, entre la dernière communauté des Premières Nations puis Parent, on a vu des dindons sur le bord du chemin. Là. On en a vu, là. Rimouski, on en a vu en masse.
Oh oui, des dindons, on t'a aperçu, là, tu sais, encore mon même réseau d'espions.
Hey, ça, là, dorénavant, là. En honneur à la Pat Patrol, tu appelles ça la Tom Patrol.
Tom Patrol, oui, c'est exactement ça.
Mais il y a des dindons partout.
Un peu partout dans le parc de la Vérendrye, dans des différentes réserves fauniques, là, autour, mettons, entre Montréal, Trois-Rivières et Lac-Tuc, réserve faunique Saint-Maurice, la Mastigouche, la Matawin. Et là, je commence à avoir de plus en plus de rapports que des dindons sont aperçus dans Charlevoix, réserve faunique de l'Atlantide, et ça arrive sud, oui. Rimouski. Moi, je chassais dans le bas du fleuve, je chassais l'orignal et j'avais des dindons sur ma caméra.
Non. Moi, je suis en belle chasse ici, là, dans la cour arrière, là, sur le bout de la galerie. Là, ils viennent ramasser qu'est-ce qui tombe des graines qu'ils voient pas. Là. C'est une cinquantaine de dindons résidents. Là, dans un mois à peu près, là, ils vont arriver. Là. Puis, c'est fou. Là. Le matin, Kate, elle se lève de bonne heure, elle s'entraîne dans le gym en haut. Là. Puis allez voir arriver là, de l'autre bord, là, il y a des gros pins sur le bord de la rivière. Là. Allez voir arriver tout à la queue leu-leu, potum, potum, potum. On a une qui est vraiment smoke, là, quasiment presque blanche, là, mais marbrée, là, assez hallucinante.
C'est cool. Moi, tu vois-tu, j'ai commencé à en avoir un peu dans ma cour. D'après moi, les autres, ils n'ont pas eu le changement d'adresse parce que ça fait un couple de mois, je reste ici. D'après moi, mais ils savent si le Turkey Nature qui reste là, ils vont peut-être s'en aller. Mais oui, c'est important. C'est important de faire cette prospection-là. Puis moi je commence déjà à prospecter. Je suis toujours là, mon état d'esprit, je peux aller dire en anglais, mon mindset, mon état d'esprit, il est déjà full dindon. Je prospecte et je prospecte de deux façons. Je prospecte en camion, tu sais, bon, le prix de l'essence, le kit, on s'entend. Et je vais prospecter aussi, je vais aller sur Google Maps. Puis là, à partir de où est-ce que je vais voir le dindon, tout, je suis capable d'aller voir, bon, OK, tel champ, ça peut être propice, tel couvert forestier peut être propice, je suis à proximité ou non d'une route, tout. Je suis capable de tranquillement mettre les morceaux du casse-tête et là, bon, si ça a du bon sens, je vais cogner aux portes. Oui, c'est disponible, non, c'est pas disponible, et ainsi de suite. C'est le même parce que le dindon, comparativement à plusieurs autres chasses, c'est une chasse qui va des fois te demander d'avoir deux, trois endroits, quatre endroits différents pour être en mesure d'arriver puis de chasser sur un tome qui va être réceptif, tu sais. Puis des fois, ça n'arrivera pas dans telle ou telle place ou des fois, les gens, ils ont des petits lots de terre. Donc, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que la pression de chasse est engendrée, donc le tome, il devient plus silencieux. D'ailleurs, un article que j'ai écrit pour Aventure Chasse-Pêche qui va sortir, j'en parle. Je parle de la chasse aux dindons, niveau supérieur. J'amène les lecteurs vraiment à un autre niveau, comme si on chassait dans le sud-est des États-Unis dans des conditions excessivement difficiles qui, tôt ou tard, vont nous arriver, mais on est mieux de se préparer à ça puis de commencer à avoir des meilleures habitudes de chasse. Donc, on est en mesure de faire face à toutes les situations que nos dindons vont nous offrir. Puis ça aussi, je vais l'aborder dans la formation.
Ça, manquez pas ça dans les prochains Aventures Chasse-Pêche. Steve écrit maintenant dans le magazine, donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de contenu très, très, très intéressant. Tu sais, la grande famille puis les amis proches de la gang de Chasse Québec, là, on est pas mal coude à coude, là, positivement. On travaille pas mal ensemble. Puis La gang ont des cristis de bonnes ressources. On a vu les Kevin Léonard s'ajouter dans la dernière année. Joël aussi qui est venu joindre. Michel qui était déjà là. Charlot qui a joint les rangs. Là, Steve qui est aussi dans cette famille-là, dans ce gang-là qui est avec nous autres. C'est un apport considérable. Je dirais, c'est comme si on avait mergé deux équipes. La ligne de l'Est et la ligne de l'Ouest. Non, mais maintenant, c'est la ligne centrale. C'est aussi simple que ça. Fait que beaucoup, beaucoup de bons stocks. Je te laisse continuer sur la prospection parce que c'est important.
Puis, il y a une autre affaire aussi qui est importante. Souvent, les gens vont me dire hey, écoute, Steve, moi, je calais l'année passée, puis on dirait cette année, je colle moins bien, puis je dis mamie. Ben, pratiquez-vous.
Ouais.
Pratiquez-vous. Il faut se pratiquer. Profitez pendant que vous prospectez. Vous êtes loin de chez vous. Il y a moins de chances de divorce ou de recevoir un chaudron par la tête. Callez dans votre pick-up. Moi, j'ai ça, puis je colle pratiquement trompette, diaphragme. À poids friction, j'en ai à tous les jours. Je pratique. Oui, j'ai une maladie. J'ai une dingue aiguë. Je comprends. Mais pratiquez vos appels, c'est important. Il y a plusieurs vidéos sur Facebook de disponibles. Puis ça aussi, je l'annonce aujourd'hui en primeur. Je vais faire des vidéos, je vais filmer un peu plus. On me le demande. Je vais filmer plus de chasse. Je vais filmer plus de vidéos instructives au niveau des appos, comment les utiliser et en français. Et ceux qui vont venir en formation, ils vont l'avoir live là. Mais tout de suite, commencez à vous pratiquer, commencez à vous familiariser avec vos appos. Tu sais, c'est beau d'acheter des diaphragmes, toute la kit, c'est le fun. Si vous l'achetez deux jours en face, toutes les diaphragmes, ça, c'est un reverse combo cut. Il y a des combo cuts, il y a des bat wings, il y a des split V, il y a des V cuts, il y a des ghost cuts. Il y en a qui n'ont pas de coupe. 3, 4, 5, 5 membranes et demie. Il faut apprendre à les maîtriser. C'est comme, tu sais, on devient comme des virtuoses de la forêt.
Oui, t'sais, oui.
Il faut apprendre à maîtriser. Puis c'est ça qui coule à la chasse aux dindons, c'est qu'on vient, qu'on dialogue avec un animal en sachant pratiquement exactement ce qu'il veut nous dire. T'sais, un dindon, ça va émettre 29 sons. On va en utiliser 7 à peu près pour la chasse. Et dans ces 7, on en a 5 qu'on est à peu près sûr à 90% de ce que le dindon veut nous dire. On est comme des Dr. Doolittle de la forêt. Fait
faut gérer cette formation-là, moi.
Possible. Puis, une autre chose, des fois que les gens, tu sais, lire. Moi, je suis un rat de bibliothèque. Là. J'ai une bibliothèque, j'ai plein de livres à dindons, puis je suis tout le temps en train de lire sur le dindon, autant que sur des histoires de chasse que sur la biologie, puis toute la kit. Puis, si les gens, mettons, là, j'ai une couple de lectures que je pourrais conseiller. Ça, c'est Ballad of a Turkey Hunter. C'est sûr qu'ils sont en anglais. Soyez patients. Il va y avoir un livre en français qui s'en vient. Soyez patients.
Des grandes annonces à soir.
Des grandes annonces à soir. Il y a lui qui est très bon. Ecstasy of Gold, que je conseille aux gens. Un autre très bon livre qui s'appelle Memory of Spring, qui est par Ron Jolly, qui est un des meilleurs photographes animaliers aux États-Unis. Puis un livre, parce que j'achète beaucoup de livres usagés, des vieux livres, là, je trouve. Lui, il date de 1914. C'est The Wild Turkey and It's Hunting. Puis c'est vraiment enrichissant de voir cette chasse-là est mythique depuis tellement longtemps. Pensez-y, ça fait 109 ans que ce livre-là a été écrit et je le lis. Puis si je chasse, comme ils disent dans le livre, je vais tuer. C'est ça qui est fascinant. Ça marche.
Écoute, Lisa pose la question, puis moi j'aurais le goût de te faire une préface à ta réponse. Hein. Un diaphragme pour débutant, c'est quoi l'idéal?
L'idéal.
Moi, j'en ai craché 40, puis je suis tombé sur le bon au bout de ça.
C'est sûr que souvent les gens vont dire un diaphragme avec une ou deux membranes. C'est plus facile tout. C'est plus facile de faire des erreurs et de mal coller avec. Moi, ce que je te conseille, là, c'est de ne pas aller en bas de 3 membranes. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Tu vas privilégier une compagnie qui va offrir 3 membranes et plus. Au début, tu vas avoir un peu plus de difficultés, mais un coup que tu vas le maîtriser, tu vas coller tellement mieux. Des compagnies comme Woodhaven. Woodhaven, c'est la plus grosse compagnie de diaphragmes aux États-Unis. Ils en font, ils en vendent dans nos différentes boutiques et magasins au Québec aussi. Et trois membranes et demie. La coupe que je te conseille, ça va être un split V. Ça va être comme un petit V coupé dessus. Ça va être une coupe qui va te donner un son assez râpeux, mais pas trop, puis qui se maîtrise très bien. Donc, ton flot d'air, même s'il est un peu trop élevé, tu vas être en mesure quand même de bien caler. Tu n'auras pas besoin d'une maîtrise supplémentaire. Tandis que là, quand tu rentres dans le 4, 5, 5 membranes et demi avec du latex très, très mince, ça vient un peu plus difficile. Mais pour ça, là, je te conseille 3 membranes, Woodhaven, Split V, tu vas être en business. Prends le temps. Puis ce qui est important, les gens, des fois, là, quand ils se mettent un diaphragme dans la bouche, là, ils sont toujours là, puis là, ils souffrent trop, tu sais. Oui. Le but, là, c'est de...
T'es pas en train de souffler une ballonne, là.
Faut que le flot d'air...
Ah, avouez, hein, un peu de thumbs up, s'il vous plaît, là. Attends un peu, là. Un peu de thumbs up, là, c'est complètement malade, là. Complètement débile. Envoyez-moi du love là-dessus. Il y en a qui paieraient pour aller voir ça comme show au lieu d'aller voir un show de rock ou Céline. C'est ça. Un flot d'air qui est...
Ton flot d'air, faut pas que ton flot d'air qui sorte de ta bouche quand tu as ton diaphragme soit supérieur à celui quand tu parles. Quand vous parlez, vous sentez, tu sais, il y a juste comme un petit peu d'air qui va sortir de votre bouche. Donc, votre air, vous ne la poussez pas, mais donc, l'air vient uniquement de votre diaphragme. Tu sais, c'est super simple. Parlez et arrangez-vous pour avoir le même flot d'air un coup que vous allez avoir le diaphragme. Et là, après ça, on vient le bien placer au niveau du palais, pas trop loin, pas trop loin en arrière, c'est-à-dire pas trop loin en avant, puis on vient faire ricocher l'air sur nos membranes. Pour faire un peu comme un cri de dindon qui s'alimente, on fait « et pour faire un yelp, on dit le mot « choc », comme Chuck Norris. Choc, choc, choc. Fait que dites le mot « choc », vous allez sentir le flot d'air dans votre paume de main, c'est le même flot d'air, il faut qu'il sorte. Et un yelp, c'est deux sons. Il y a le front note puis le back note. On rapproche ces deux notes-là. Tout simplement. Fait que moi, ce que je fais, souvent, j'ai un diaphragme, je mets dans ma bouche, je conduis, puis là, je chante des chansons, je chante Bon Jovi, n'importe quoi, du Van Halen. Je le mets, je parle avec, j'en ai tout le temps dans la bouche, puis tout le kit. Comme on dit en anglais, practice make perfect, il faut pratiquer, tout simplement. Pratiquez et découragez-vous pas. Ouais, on a des bonnes, on a des moins bonnes journées, mais prenez le temps.
Comme dans bien d'autres techniques de call, la biomécanique du mouvement est excessivement importante. Fait que si tu te remets à pratiquer tout le temps, 5 jours avant de retourner au dindon, le temps de revenir dedans, puis après ça, de contrôler, c'est l'enfer. Alors, quelqu'un qui fait du karaté 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ben, à un moment donné, il y a des mouvements qui ne se rendent même plus compte, qui rentrent, puis c'est une biomécanique qui va enchaîner. C'est la même chose. Il y a une mémoire au niveau musculaire dans la façon de pousser, puis ça donne les deux, mais de chanter puis de mettre ton diaphragme après ça pour maintenir le même flot d'air, mais de le faire à longueur d'année, tu mets ça dans le petit pot dans le milieu du char, puis bonsoir.
Puis cette année, c'est Matt Van Sice, un Américain de Pennsylvanie qui a gagné le Grand National Calling Championship. Ça fait 7 fois qu'il gagne. J'ai jamais vu. Ce gars-là, c'est une machine. Il colle mieux le dindon que les dindons eux-mêmes.
Il donne des cours au dindon la fin de semaine. Là. Il donne des cours. Je t'en compte une bonne, moi. Moi, j'ai eu énormément de misère à apprendre avec le diaphragme, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Puis, on s'en va à la chasse avec quelqu'un dans le coin ici, puis je suis dans la cache, puis je pop le diaphragme, puis on tabarouette, je suis bien bon aujourd'hui, ça va bien. En tout cas, moi, je me trouve bon. Dindon, on trouvait que non, parce qu'il n'est pas venu, là. À un moment donné, je crache le diaphragme. J'avais commandé la semaine d'avant un diaphragme avec un cornet pour pratiquer à coller au elk. C'était mon diaphragme de elk. je me trouvais bon tout d'un coup.
Ben, diaphragme de elk, généralement, ils n'ont pas de coupe sur la membrane supérieure, donc c'est des straight cuts, et ils ont quand même un latex qui est quand même assez souple.
Oui.
Donc, si tu essayes avec des corps qui ont un latex assez souple, mais qu'on se voit, là, je vais te donner quelque chose.
Okay.
J'ai un bon ami, Jeff Frederick, Jeff Frederick's Champion Choice. Jeff, vous irez voir là, sur mon Facebook, dans mes amis, tout le kit, ou même sur la page Club Dindon Sauvage. Je partage souvent de ses publications. Jeff, vous pouvez communiquer avec lui. Jeff, c'est un artisan du dindon. Tout ce qui fait que le dindon, c'est magnifique. Il fait des super montages, des beaux cadres avec des plumes. C'est magnifique ce qu'il fait. Puis Jeff fait des cadres. D'ailleurs, c'est un Jeff Fredericks que j'ai là. Et il y a 5 membranes et demie, celui-là. Ses cadres sont empreints d'un réalisme. La coupe n'est pas nécessairement conventionnelle. Au lieu d'avoir une demi-lune, on a une coupe qui est un peu plus en V. Donc, le diaphragme a tendance à mieux se coller au palais sans trop se coller. Il faut bien le placer. C'est pas nécessairement pour débutants, mais il y en a d'autres coupes pour débutants, puis ça sonne tellement bien.
Au départ, là, il y a différentes largeurs de diaphragme. Moi, j'ai eu de la misère avec ça au début parce que j'ai le palais bien étroit puis bien calme. Moi,
c'est largeur, ils appellent ça Ute, avec des frames un peu plus petits. Puis, je vais t'organiser comment?
Ah, parce que je finissais avec 2 ulcères dans la tenue. Là, j'ai fini par pogner. Kate l'a pogné beaucoup plus rapidement que moi, mais je suis intéressé à voir ce que tu me dis là. Puis, honnêtement, moi, je vais regarder, là, 18 mars, là, fais pas le show si tu me vois m'inscrire. Si on se rend compte qu'on est disponible, là, on va monter tous les deux parce que moi, j'aime bien ça. Elle a trip en tabarouette. Elle veut son tome, là.
Ben, c'est tellement une chasse qui est cool. C'est tellement une chasse qui est fun, qui est gratifiante, tu sais, qui va te faire vivre des expériences à tous les niveaux, tu sais, que tu ne vivras pas nécessairement avec d'autres gibiers, tu sais. Oui, c'est le fun orignal, tu peux avoir une interaction, mais au niveau du nombre d'interactions avec la chasse orignale versus la chasse au dindon, ça ne se compare pas. Des dindons, des fois, tu vas jaser au cours de ta semaine avec 4, 5, 6, 7 tonnes. Tu sais, l'orignal, on peut-être arriver une fois ou deux dans toute ta semaine. T'sais. Puis après ça, tu sais, je vois Nick Mantello, c'est une drague. Oui, c'en est une. Moi, je t'atteins mentalement, là. Mais c'est pas grave. J'ai pas l'intention de me guérir de ça. Mais d'un coup que tu maîtrises généralement tes cartes puis toute la kit, puis tu es en mesure de dialoguer, là, ça commence à être encore plus fun parce que là, t'es en mesure de le faire venir à toi, de le travailler, de comprendre. Des fois, ça sera pas le tome. Ça va être les femelles avec lesquelles tu vas commencer à dialoguer puis qu'elles vont ramener à leur remorque le tome voulu. Il y a tellement de choses à voir. Puis, tout le monde dit « Ah, cette année, tu sais. » Puis, souvent, on en voit, là, je connais du monde là, qui vont me dire « Ah, moi, le dindon, moi, je tue mes deux. » Mais non, moi là, c'est un univers qui finit jamais, qui j'en ai à apprendre. Là, je suis en train de m'aligner pour m'en aller dans des états qui vont être excessivement difficiles. Là. On parle du Missouri. Tu sais, il y a 3 états là, mythiques aux États-Unis pour la chasse au dindon. On a la Floride, l'Alabama et le Missouri. Bon, l'Alabama, j'ai tué du dindon. En Floride aussi. Là, il me reste le Missouri.
Quelle espèce là-bas?
Pardon?
Quelle espèce qu'il y a là-bas?
Dindon de l'Est, comme ici. Okay. Puis, dans les monts Ozark, ça va être une belle aventure. Il y a peut-être la Colorado. Mais je vais aller me mesurer encore, comme quand je vais aux États-Unis, à des dindons qui sont éduqués, des dindons qui en ont vu d'autres, des dindons qui sont habitués, des dindons qui sont beaucoup moins vocaux que les nôtres. Donc, tu sais, il faut que tu travailles.
Beaucoup de finesse, j'imagine.
C'est un mélange de tout. C'est un mélange d'être en mesure d'avoir des bonnes stratégies, de bien connaître son territoire, de bien connaître son gibier, ses habitudes, et aussi de bien maîtriser ses appels.
Et voilà, beaucoup de finesse. Gustave, en arrière de toi, ça, c'est un Myriam, ça.
C'est bien de son nom.
Hey, c'est Gustave.
Oui.
Ça, raconte-nous, écoute, il nous reste quelques minutes, puis je vais revenir à la formation après. Là. Raconte-nous, Gustave, c'est un beau spécimen de Myriam, ça, là.
Oui, ça, Gustave, c'est un Myriam du Wyoming que j'ai tué en 2013. Et Gustave, c'est un dindon de classe Kenhammer. Ça veut dire, le classe Kenhammer, c'est des dindons avec des caractéristiques hors normes. Donc, ce qu'il faut savoir pour le dindon, tu sais, il y a le Pope and Young, Boone and Crockett, on mesure les pouces, la similité d'épanage pour chevreuil, orignaux, les différents cervidés, ou ben non, la crâne pour un ours, ainsi de suite.
Oui.
Pour le dindon, il y a 3 paramètres pour les points. Il y a la barbe. On mesure les longueurs de barbe. S'il y en a une ou plus qu'une, on multiplie par 2. On mesure la longueur des ergots qu'on additionne, les 2 ergots ensemble, qu'on multiplie par 10. Et on pèse l'animal qu'on additionne, qu'on multiplie par 1. Donc, ça, ça nous donne un score NWTF. Et pour les Myriam, j'ai tué cette journée-là, les deuxièmes et le cinquième plus gros Myriam jamais récolté. Donc, avec les ergots en plus, les longueurs des ergots. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai tué deux dindons de classe Kenhammer. C'est la première personne à réussir ça depuis 1982. Très un Québécois. Puis, tu sais, je vais être bien honnête avec les gens. T'sais, quand vous voyez un chevreuil arriver ou un orignal arriver, vous le voyez, c'est un 55, un 60 pouces. Ben non, c'est un 160 Boone & Crockett, un 15 points ou whatever. Un dindon, tu ne vois pas ça. Ces caractéristiques-là, tu peux voir la barbe, tout. Moi, j'ai tiré dindon, puis je suis arrivé au dindon, puis c'est un bonus. Pour moi, ça a été un bonus, tu sais. Mais vraiment...
C'est hallucinant.
C'est une chance, puis ça, ce voyage-là. Deux jours après, j'allais à la chasse dans le Wisconsin. Je tuais un magnifique dindon de l'Est dans le Wisconsin avec un score pratiquement comparable, mais pour les dindons de l'Est qui sont déjà des caractéristiques beaucoup plus grosses.
Une belle année, Steve.
Hein? Et deux jours après... J'arrivais en Ontario, puis je tuais le record canadien avec 3 barbes, avec un score de 104 points.
OK, je vous répète, 75$ le 18 mars, OK. Alors, mets-moi ça à Régie, s'il te plaît, enlève le Turkinator dans le bas pour qu'on voie au complet, là, à Régie. Alors, mets-moi dans ça, voir la pancarte pour la formation que les gens... Là, prenez des notes, là. Ce que vous venez d'entendre là, bien, vous avez la possibilité d'apprendre de ce gars-là. Puis là, il l'a écrit, il ne peut pas revenir en arrière. Là. 75$. 75$. C'est un tiers de 7, 75$. 75$. Samedi 18 mars, au Quai des Brasseurs, donc au centre du Québec, accessible pour tout le monde. Moi, j'ai regardé l'horaire avec Kate. Il y a des grosses chances qu'on soit là-bas, des grosses, grosses chances. Si on est disponible, on est là, c'est sûr et certain. Steve reste après la formation qui est en après-midi. Il reste après la formation, prendre une bière, amenez vos câbles pour vous pratiquer. On va triper là-bas. Je dis « on » parce que je présume déjà qu'elle va probablement dire oui. Il faut voir avec les affaires familiales avant. Mais ça serait vraiment trippant. Steve, on t'écoute sur différentes plateformes, donc sur Apple Music et sur Spotify avec le Turkinator. Mais évidemment, maintenant, très facilement, sur la page d'Aventure Chasse-Pêche, série Turkinator, les vues s'en vont de toute façon sur le je ne me souviens pas si c'est le Spotify ou le Apple Music qu'on pompe et qu'on garoche là-dessus. Là.
Et juste vite, sans vouloir trop t'interrompre, oui. J'ai reçu une belle surprise. L'année passée, Spotify m'a envoyé mon podcast Turkinator figuré parmi 10% des podcasts les plus partagés au monde. J'ai été mis en nomination.
Solide.
Le meilleur podcast de plein air. J'ai fini, il y avait des votes, j'ai fini 4e, mais juste d'avoir été mis en nomination. Je veux juste remercier tous les gens, ceux qui m'appuient, vous autres entre autres, et tous ceux qui m'écoutent puis qui vont sur le podcast. Merci beaucoup. Puis ils allons voir saison 2, là, ça va fesser fort. Là. Ça va être big.
Solide. Steve, un gros merci. Moi, je te reçois un petit peu plus tard au printemps. Là, on va reparler de dindons. On va parler de tiques aussi. On va parler de maladie de Lyme parce que vous avez à l'écran deux personnes qui, l'année passée, à peu près dans la même date, avaient la maladie de Lyme. Vive les antibiotiques! Oui. Fait qu'il faut swatcher parce que 2/2 à l'écran, présentement, on l'avait l'année passée. Fait qu'écoute, on se revoit à ce moment-là. Un gros, gros, gros merci à toi, Steve. Beaucoup de love à Steve. Allez sur la page Aventure Chasse-Pêche. Allez dans la série Turkinator. Vous allez trouver tout le contenu de Steve. Steve, on se dit à la prochaine. Je te laisse aller. On s'en reparle, nous autres, dans la semaine.
Venez nous voir sur notre page Club Dindon Sauvage, notre groupe Les Turkinators sur les jazz de Dindon. Venez nous voir. Merci tout le monde. On s'en voit. Bye-bye.
Merci, Steve. Salut. Moi, je vais rendre les ondes à peu près 5 ou 10 minutes, le temps d'une petite pause pipi. On va rafraîchir le café et on repart un live. Cette fois-ci, on tombe en live Liberté, Honnêteté, NFA. Avec nul autre que Guy Morin qui va être avec nous autres. Chuck va être aussi avec nous autres, mais Guy Morin, notre invité ce soir. Fait que je vous dirai à peu près 10 minutes, là, 10-15 minutes. Là, donc, on se dit pour 8 heures à peu près, là, on restart le live. Allez sur le club Dindon Sauvage, Dindon Sauvage Montréal, donc que vous allez trouver sur Facebook facilement. Rejoindre Steve. Allez écouter évidemment aussi les Turkinator que vous allez pouvoir avoir au travers de la plateforme Aventure Chasse-Pêche. Nous autres, on se revoit dans... Grosso modo, 15 minutes, je prends un petit arrêt pipi, je vais connecter tout le monde, puis on vous revient avec un autre cadrage marqué NFA, et on va parler de C21, où est-ce qu'on est rendu? Salut gang!